3, 2, 1. Le grand débat avec Francis Laloupo.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission. Nous sommes ensemble, c'est en direct jusqu'à 19h, heure de Paris. Si vous souhaitez intervenir dans l'émission, un numéro de téléphone, le 01 55 07 58 00 depuis la France. Et de partout ailleurs dans le monde, c'est le 00 33 1 55 07 58 00. Vous pouvez également intervenir sur notre site africa1.com, rubrique Le Grand Débat.
Africa numéro 1, Le Grand Débat.
Au sommaire de cette édition, le Nigeria du président Goodluck Jonathan. Le président nigérian Goodluck Jonathan, au pouvoir depuis 2010, a confirmé mardi dernier son intention de briguer un second mandat présidentiel en février 2015. Une candidature contestée par une partie de l'opinion qui pointe du doigt un bilan discutable. En effet, avec la montée de la pauvreté, une crise sociale larvée et le recul de l'autorité de l'État, quels seront les arguments du président sortant pour convaincre un électorat plutôt désabusé? Au cœur des préoccupations de cet électorat, l'incapacité du pouvoir à détruire la secte islamiste Boko Haram qui poursuit son expansion face aux stratégies de riposte aussi illisibles qu'inefficaces du pouvoir. À quoi ressemble le Nigeria sous la présidence de Goodluck Jonathan et sur quels atouts se fonde son intention de prolonger son bail au sommet de l'État? Réponse dans ce grand débat. Débatteur polémiste invité, Emmanuel Kouzoumouami, analyste politique et essayiste. L'émission est réalisée par Hélène Bizio.
Le grand débat sur Africa numéro 1. Le grand débat.
Le grand débat, c'est également sur facebook.com/legranddebat. Quelques nouveaux amis nous ont rejoints. Modoé Amouzou, Pierre Peter Afodi, Libéral Agosou et Vincent Lijon. Bienvenue à vous sur le site du grand débat. Tout de suite, le débat du jour.
Suivez également le grand débat et toute l'actualité africaine sur le site www.africa1.com.
Le Nigeria du président Goodluck Jonathan. Les Nigériens se rendront donc aux urnes en février prochain pour élire leur président. Et face à la candidature annoncée du président sortant Goodluck Jonathan, quelles sont les offres politiques alternatives et quels sont les défis à relever à moyen terme pour la première puissance économique du continent? Nous en parlons avec nos invités, avec nous ici en studio, Akere Orimisan. Bonsoir.
Bonsoir.
Président du Club des francophones du Nigeria et membre du bureau de transition de l'Association de la diaspora nigérienne en Europe. C'est le Nidoé France. Avec nous au téléphone depuis Vienne en Autriche, Yves Kouamaïso, bonsoir.
Bonsoir Francis, merci pour l'invitation.
Écoutez, Yves Kouamaïso qu'on ne présente plus, économiste, président du think tank Afrocentricity. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, Akere Orimisan, on va peut-être lever avec vous enfin aujourd'hui un mystère. On va peut-être l'élucider grâce à vous. Pourquoi ce chapeau de Goodluck Jonathan? Pourquoi porte-t-il toujours ce chapeau?
Non, c'est un chapeau qui est régional. C'est dans la région où il est originaire, du Nigeria. C'est une tradition de cette région. Vous savez, au Nigeria, on n'abandonne pas facilement les traditions.
D'accord.
Que ce soit au pays Yoruba, on a des habits différents de la région du delta du Niger, qui est différent aussi de la région du nord du Nigeria. Chaque région a une tenue vestimentaire assez particulière à la région.
Et c'est ce chapeau noir à franges comme ça, c'est plutôt large. Hein.
Ça fait partie de la tradition de cette région-là.
Oui. Et il garde ça même dans la réception, il n'enlève jamais ce chapeau.
Tout à fait. De la même manière qu'Obasanjo n'enlevait jamais son boubou avec un chapeau.
Le boubou, encore on comprend quand même, mais le chapeau.
Oui, mais c'est une tradition de la région.
D'accord.
Tout à fait.
Il dort pas avec, quand même.
Là, je suis pas assez secret, là, je pourrais pas vous dire.
Bon, voilà. Écoutez, merci. À quelle émission on a enfin compris pourquoi le président Goodluck Jonathan porte toujours ce chapeau. Alors, donc, je le disais, lors d'un grand meeting mardi dernier à Abuja, le président nigérian a donc annoncé sa candidature à la présidentielle de février 2015. Le Goodluck Jonathan, 56 ans. Au pouvoir depuis 2010, d'abord pour assurer l'intérim après la mort du président Yar'Adua, puis élu en avril 2011 avec 57% des suffrages. Akere Orimisan, et quels sont les arguments et les atouts dont dispose aujourd'hui cet homme pour espérer l'emporter en février prochain?
Quant aux atouts, je ne saurais vous dire. Disons que, attention, le président Goodluck Jonathan vient de se déclarer candidat à la présidence. Les constitutionnalistes nigériens sont en train de se pencher sur sa candidature, à savoir que sur la constitutionnalité de sa candidature, à savoir que l'article 135, alinéa 1 et 2 de la constitution nigériane stipule que personne ne peut prêter serment plus de deux fois. Or, le président Goodluck Jonathan a déjà prêté serment en 2010 quand il a remplacé Omar Yar'Adua comme président. Il a prêté de nouveau serment en 2011 quand il a été élu. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, est-ce qu'il a, la constitution lui donne le droit de se présenter cette fois-ci?
Il faut dire qu'après ces serments, une première fois, c'était pour remplacer donc le président Yar'Adua qui venait de décéder. Okay. Donc il assurait un intérim. Mais la constitution ne prévoit pas non plus qu'un président meurt en exercice meurt. Donc cet intérim n'était pas peut-être prévisible aussi, n'était pas prévu dans la constitution, non?
Si, c'est prévu dans la constitution.
D'accord.
C'est prévu dans la constitution que le vice-président remplace le président.
D'accord.
C'est pour cela qu'on s'était tous battus dans le temps pour que Goodluck Jonathan remplace Omar Yar'Adua, parce que certaines personnalités du nord du Nigeria stipulaient que ce n'était pas le tour, c'était pas, il n'avait pas le droit de le remplacer parce qu'il est, chrétien, il est du sud.
Oui.
On venait d'avoir un président Obasanjo du sud, donc alors que la constitution ne lui refusait pas ce droit de remplacer Omar Yar'Adua.
Parce que vous précisez aux auditeurs que lui il est chrétien, donc Goodluck Jonathan, et qu'il y a une sorte de tradition non écrite comme ça au sein du parti au pouvoir de désigner un candidat musulman après le mandat d'un président chrétien, c'est ça?
Mais cela n'est pas écrit dans la constitution nigériane. Si vous voulez,
musulman du Nord.
Traditionnellement au Nigeria, quand on a un président chrétien, on a forcément un vice-président musulman. Ou alors quand on a un président originaire du Nord, le vice-président est souvent du Sud, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, il y a même des candidatures aujourd'hui au sein du parti de l'opposition APC. Qui veulent proposer une candidature président musulman, vice-président musulman, mais un originaire du nord, l'autre originaire du sud. Rien ne l'interdit formellement. Donc ça c'est pas une règle qui est stipulée ainsi dans la constitution nigériane, mais généralement une fois qu'un président est élu au Nigeria, tous les postes sont ensuite rétablis de manière équitable à travers les six régions géopolitiques du Nigeria. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas une région qui est plus représentée qu'une autre. Généralement, c'est comme ça que ça se passe dans ce pays. Donc, sur la constitutionnalité de sa candidature, les constitutionnalistes nigériens nous diront dans les jours à venir s'il a véritablement le droit de se présenter en fonction de cet article que je viens de vous citer ou pas. Dans ce moment-là, on saura si sa candidature est validée ou non. Parce qu'on attendait qu'il se présente, qu'il déclare sa candidature. Maintenant qu'elle est déclarée, on verra la suite dans quelques jours.
En tout cas, lui, il a envie d'y aller.
Il a envie d'y aller, bien entendu. Si la Constitution lui donne le droit d'y aller, moi, je ne serai pas opposé. Moi, j'aimerais, aujourd'hui, je ne le soutiens plus. Je l'ai soutenu pour d'abord remplacer Omar Yar'Adua. Je l'ai soutenu pour le premier mandat en 2011. Je ne le soutiens plus pour d'autres raisons.
C'est pour ça que vous n'avez pas répondu à ma question de savoir quels étaient ses atouts pour rempiler en 2015.
Honnêtement, je ne suis pas bien placé aujourd'hui pour parler de ses atouts. Il a certainement des partisans.
Si vous pouvez le faire objectivement.
Honnêtement, sur sa candidature aujourd'hui, je ne vois rien de probant dans cette candidature.
Oui.
Parce que le président Goodluck Jonathan, on a l'impression qu'il est arrivé au pouvoir par hasard et qu'il n'a jamais réellement su porter l'habit de président du Nigeria. J'ai l'impression qu'il n'a pas assez il n'a pas la capacité requise pour comprendre ce pays-là aussi difficile à gérer. Et aujourd'hui, il a tâtonné depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Il n'a jamais été efficace.
Alors, au début de l'année, on avait assisté à de vives querelles au sein du Parti démocratique du peuple, le PDP, au pouvoir au Nigeria. Alors, plusieurs élus de cette majorité avaient choisi, à l'époque, de rejoindre les rangs de l'opposition. Est-ce que la situation au sein du parti s'est apaisée aujourd'hui?
Non, elle s'est dégradée.
Ah.
Elle s'est dégradée parce que le dernier à quitter le parti, c'est le président de la Chambre des représentants, qui était un membre du PDP, qui vient de déserter et s'est retrouvé dans le parti principal de l'opposition, APC. Donc la situation s'est considérablement dégradée. Mais attention, tout ce que je vous dis, ça ne veut pas dire que Goodluck Jonathan ne peut pas encore gagner les élections Nigeria. Il peut encore gagner les élections Nigeria parce que pour gagner les élections Nigeria, faut pas avoir forcément un bon mandat ou ni être forcément populaire.
Il peut s'appuyer sur cette machine électorale qu'est le PDP qui a beaucoup de moyens financiers.
Exactement. Il peut tout simplement réunir les patriarches locaux. Je vous ai parlé des six régions géopolitiques du Nigeria. Il faut seulement qu'il ait l'accord de ces patriarches pour pouvoir prétendre encore gagner les élections du Nigeria. Parce que vous savez, au Nigeria, 50% des gens votent pour ces patriarches-là locaux qui sont les plus connus dans les différentes régions. 25% d'intellectuels vont voter pour le programme. Et 25% voteront pour des raisons ethniques ou autres, ainsi de suite. Donc, rien ne dit que si sa candidature est approuvée, il ne peut pas encore gagner les élections nigériennes, même si je ne suis pas pour qu'il gagne cette fois-ci.
Est-ce que l'argent est un argument déterminant dans les campagnes électorales encore aujourd'hui au Nigeria?
Bah, ça y joue. Et quand on est au pouvoir, on a la main dans les caisses. Donc, on a plus de possibilités de convaincre les patriarches locaux dont je vous ai parlé, pour pouvoir commencer les campagnes électorales plus de manière plus sérieuse.
On va poser une première question à Yves Kouamaizo qui est avec nous au téléphone depuis Vienne en Autriche. Alors, Yves Kouamaizo, vous avez écouté Akere Orimisan qui a du mal à trouver des atouts au président Jonathan Goodluck Jonathan. Est-ce que vous lui trouvez avec, est-ce que vous pouvez nous esquisser rapidement le bilan de Goodluck Jonathan, enfin en tout cas votre regard en tout cas sur ce mandat?
Alors, les atouts, il en a, mais je vais bien commencer par le bilan, parce que qu'est-ce quoi un bilan d'un grand pays comme le Nigeria? Il faut d'abord une capacité d'une équipe dirigeante à assurer la paix et la sécurité. Et vous l'avez dit dans votre introduction, là, vraiment, il y a un problème, c'est pas seulement Boko Haram, mais il y a un problème général de sécurité dans le pays et de corruption qui n'a pas fondamentalement été levé. Deuxièmement, il faut améliorer l'économie, donc le pouvoir d'achat des populations. Je vous donnerai les chiffres tout à l'heure. Oui. Ce n'est pas bon. Les chiffres ne sont pas bons, oui. Surtout pour une grande majorité de la population.
C'est ça.
Et le troisième, pour aller vite en besogne, le mieux-être général. Là-dessus aussi, on a un gros problème. Et je rajouterai un quatrième, qui est le développement régional. C'est le Nigeria aurait dû être une locomotive pour l'ensemble des pays de la zone. Vous verrez les chiffres aussi tout à l'heure. Plus que locomotive, c'est presque un wagon dans un certain nombre de domaines. Oui. Donc les retombées positives pour le Nigeria lui-même sont plutôt faibles. Et de manière générale, on a un problème avec ce Goodluck Jonathan, parce que avant qu'il n'arrive en économie, en tout cas pour sa gestion, l'économie nigériane, bon an, mal an, était autour de 10% de croissance. Et surtout après la crise financière de 2007 et de 2008. C'est-à-dire qu'on a assisté à un président qui gérait ce pays pratiquement sans véritable visibilité, en tout cas de l'extérieur.
C'est ça.
Alors bien sûr, on l'a mis sur le compte de la corruption, un certain nombre de choses, mais en tout cas, il y a un manque de lisibilité assez probant. Le problème est que, avec une moyenne de 5% de croissance actuellement, ou 7% pour le FMI, on s'aperçoit que de toute façon, il y a eu une chute de 10 à 7. Donc, le bilan économique n'est pas bon. En se rappelant d'ailleurs qui avait une moyenne de 9,6% de croissance économique entre 2004 et avant qu'il n'arrive fin 2009. Donc là, je suis formel. En tout cas, il ne sait pas gérer la macroéconomique de ce pays. L'inflation, bon, ça s'est un tout petit peu amélioré, mais les investisseurs, contrairement à ce que les gens ne voient pas ou ne savent pas, ont fui le pays. C'était de 21% en 2009, juste avant qu'il n'arrive. On est à 17, on va même tomber à 15.
C'est ça.
Donc il y a un problème général, la façon qu'il joue. Alors, sur les populations, je suis allé voir ce qu'on appelle l'épargne dans un pays. Cette épargne dans ce pays a chuté. On est passé de plus de 26% avant au moment où il est arrivé, 2009, à 21, voire autour de 17 en 2015.
D'accord.
Donc, les gens piochent dans leur épargne pour pouvoir vivre. C'est-à-dire que c'est un pays qui n'arrive pas à créer de la richesse pour permettre à chacun de s'améliorer. Alors bien sûr, vous allez me dire, c'est un grand pays et ils ont de la richesse. Oui, c'est seulement l'inégalité rentre en jeu et donc c'est très, très, très mal réparti.
On indique d'ailleurs que, voilà, il faut rappeler qu'il y a 170 millions d'habitants au Nigeria et que la plupart, enfin, la grande majorité de la population vit quand même avec moins de $1,50 par jour. Vous le confirmez?
Je confirme.
On va marquer une pause, retour du grand débat dans deux minutes pour la suite de ce débat. Le Nigeria du président Goodluck Jonathan, anatomie de ce Nigeria du président Goodluck Jonathan dans cette édition. Nous en parlons avec nos invités, Akere Orimisan, président du club des francophones du Nigeria, membre du bureau de transition de l'association de la diaspora nigérienne en Europe. Notre débat, nous sommes également au téléphone avec Yves Ekwe-Amaizo, économiste, président du think tank Afrocentricity et notre débatteur polémiste invité, il est là. Emmanuel Kouzoumouami, analyste politique et essayiste. Restez avec nous, à tout de suite.
De 18h jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupo sur Africa numéro 1.
Le Nigeria du président Goodluck Jonathan qui a annoncé sa candidature pour la présidentielle de février 2015 pour un deuxième mandat. Nous en parlons avec nos invités, Akere Orimisan, Yves Kouamaizo et notre débatteur polémiste invité, Emmanuel Kouzoumouami. Akere Orimisan, encore une question avant d'écouter Emmanuel Kouzoumouami. Alors, évidemment, on souligne beaucoup l'incapacité du pouvoir à rétablir la sécurité sur le territoire et évidemment au cœur des préoccupations. Il y a évidemment la lutte contre Boko Haram. Mais on a pu voir aussi la maigre contribution du Nigeria dans la résolution de la crise au Mali. Alors, ce Nigeria, qui était montré autrefois comme une grande puissance militaire dans la région, apparaît désormais comme une sorte comme ça de nez militaire, quoi. Est-ce que cette situation a réduit le poids diplomatique du Nigeria dans la sous-région?
Sous Goodluck Jonathan, effectivement, le poids du Nigeria a quelque peu été réduit. On a vu le sommet Amérique-Afrique aux États-Unis où était situé le président Goodluck Jonathan. C'était inconcevable pour les Nigériens de voir le président Goodluck Jonathan au fin fond des rangs, alors que d'habitude, dans la première économie d'Afrique, devait être aux côtés de Barack Obama. Donc, sans aucun doute, le Nigeria, le pouvoir du Nigeria a été réduit, l'influence du Nigeria a été réduite sous Goodluck Jonathan. Peut-être c'est certainement dû, effectivement, à cette lutte incessante et contre Boko Haram. Mais Boko Haram, encore, attention, Boko Haram peut être même un facteur qui occasionne même sa victoire dans les élections. Parce que Boko Haram peut susciter au Nigeria ce qu'on a connu aux États-Unis sous George Bush Jr. C'est-à-dire le sursaut des Américains qui disent qu'on n'a pas envie d'aller dans le sens des terroristes pour élire les présidents. Ça peut être le cas pour le Nigeria. Savoir qu'aujourd'hui, moi-même, j'ai souvent cette pensée qui consiste à dire, j'ai pas envie de voter contre Goodluck Jonathan parce que les bandits armés au nom de Boko Haram se sont ralliés contre lui parce qu'ils veulent le faire partir, avec la complicité certainement des politiques du Nord. Parce que c'est quoi Boko Haram exactement? Aujourd'hui, les enquêtes menées par les journalistes nigériens ont révélé que Boko Haram, contrairement à ce qu'on pense, c'est quand même une organisation internationale. Une organisation internationale qui a à sa tête des Nigériens, bien entendu, qui fait ses recrutements essentiellement dans la région, dans la population à Oussa, qui se situe entre le Niger et le Nigeria, qui a des complicités logistiques du Tchad, qui a une frontière, qui est située, une base militaire qui se situe entre la frontière du Cameroun et du Nigeria, avec un financement qui viendrait aussi de l'étranger. Vous avez, quand on a tout ça ensemble, avec le, bon, aujourd'hui, on soupçonne l'ancien gouverneur de l'État de Borno, un certain Ali Modou Chérif, d'être l'homme par qui le financement de Boko Haram arrive. Quand on a fait cette analyse-là, on se rend compte que le Niger ne se bat pas contre un simple mouvement comme on a pu le penser au départ, mais contre une structure bien organisée et auquel l'armée nigérienne a énormément du mal à éliminer. Et surtout, il faut savoir que à l'intérieur de l'armée nigérienne, il y a probablement et certainement des complicités. Donc, quand on a mis tout ça ensemble, ça fait que Boko Haram reste un mouvement extrêmement compliqué à combattre. Aujourd'hui, les deux seuls pays qui combattent réellement Boko Haram, c'est le Nigeria et le Cameroun. Le Cameroun a finalement retourné sa veste contre Boko Haram pour réellement aider le Nigeria à éliminer ce mouvement. Par contre, le Niger et le Tchad, on n'a pas. Vous aviez invité ici Monsieur Bazoum il y a quelques jours.
Le ministre des Affaires étrangères.
J'avais voulu lui poser cette question. Qu'est fait le Niger, sachant que le gros recrutement est dans la population Haoussa du Niger, mais qu'est fait le Niger contre Boko Haram?
Officiellement, le pouvoir combat Boko Haram.
Bon, écoutez, j'ai eu il y a quelques années déjà dans un environnement concurrentiel des discussions avec Monsieur Bazoum qui avait tendance à dire tout ce qui est chrétien qui dirige le Niger n'est pas favorable. Le Niger, il y a cette complicité.
Mohamed Bazoum a dit ça.
Il y a cette complicité à Oussa du nord du Nigeria avec le Niger qui fait qu'aujourd'hui, parce que c'est Goodluck Jonathan, on a tendance à s'allier contre lui avec Boko Haram. Avec des complicités, enfin c'est une enquête du thème.
Enfin, le départ de Jonathan ne va pas mettre fin à l'aventure de Boko Haram pour autant.
Si, attendez, il y a deux hypothèses. Ou l'opposition nigériane du nord du Nigeria est complice de Boko Haram, dont on va voir la fin de Boko Haram certainement après les élections, si l'opposition gagne les élections. Ou alors, c'est plutôt l'armée qui fomente le coup, qui fait tout pour pouvoir prendre le pouvoir au Nigeria dans quelques mois à venir, peut-être avant les élections ou après les élections. Ah. Bien entendu, ça peut être aussi une complicité. Ça, il y a plusieurs hypothèses aujourd'hui qui font que rien n'est à exclure dans ces hypothèses concernant pourquoi l'armée nigérienne n'arrive pas
à éradiquer
Boko Haram. Sachant que dans un village, dans une des contrées qui a été prise récemment par Boko Haram, à Moubi, je crois, Boko Haram a été chassé de cette contrée rien que par les milices civiles, avec des machettes. Si on peut chasser d'une ville Boko Haram avec des machettes, pourquoi l'armée nigérienne n'arrive pas? Donc l'armée nigérienne prétend qu'on n'a pas assez d'armes. Je ne crois pas du tout à cette hypothèse-là. Pas du tout, dans la mesure où bon, on a accusé les États-Unis de ne pas vouloir vendre les hélicoptères, Cobra au Nigeria pour combattre Boko Haram. Je ne crois pas du tout à ces hypothèses-là. L'armée nigérienne aussi a assez d'armes aujourd'hui pour combattre Boko Haram. Je pense qu'il y a certainement une sorte de complicité, soit pour prendre le pouvoir, parce que l'armée joue à prendre le pouvoir, soit alors il y a aussi une complicité qui vient du nord du Nigeria avec le Niger et le Tchad pour continuer à embêter, entre guillemets, Goodluck Jonathan jusqu'au bout.
Merci à Karine Royim. On va écouter un premier commentaire de notre débatteur polémiste, invité Emmanuel Kouzoumouami.
Le Nigeria, merci d'abord de notre invité, il a une explication très claire sur le Nigeria actuel et son passé récent. Ce qui est toujours frappant, c'est de voir un grand monstre africain, le Nigeria, c'est vrai, une grande puissance humaine de l'Afrique, une pseudo-puissance économique de l'Afrique, mais c'est un colosse au pied d'argile finalement, même très 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 fragile. Alors, il y a, dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, des éléments qui me frappent. Sur le plan juridique, on a discuté comme ça en off. Rien n'interdit, parce qu'en réalité, le Niger a suivi le système américain d'avoir un ticket entre un président et un vice-président. Si un président était éclaté du pouvoir d'une façon ou d'une autre, c'est arrivé aux États-Unis en 73 contre l'ancien président Nixon. Donc le vice-président poursuit le mandat jusqu'au bout. Et ensuite, il peut se présenter à titre personnel à la présidence. Donc, autrement dit, comme il a fait un mandat en tant que président depuis 2010, il peut se présenter pour le prochain mandat. En tout cas, juridiquement, rien ne lui interdit. Alors après, c'est le Nigeria de décider. Ça, c'est l'élément juridique. Sur l'élément maintenant politique, là, effectivement, ce qu'on vient de dire sur le Boko Haram, c'est saisissant. Quand on voit que Chibok, qui est une ville à tout, somme toute moyenne, où pour déloger les islamistes de Boko Haram, il a fallu que les miliciens civils se débrouillent pour ça, l'armée, et pour les auditeurs qui nous écoutent, l'armée était là. Sauf que l'armée a fui dès le départ. Quand il a entendu le premier coup de feu des miliciens de Boko Haram, c'est pas des militaires, c'est des miliciens de Boko Haram qui ont tiré en l'air, les militaires se sont enfuis. Et ce sont les civils qui ont combattu Boko Haram et qui sont arrivés finalement à sortir, à faire fuir les combattants de Boko Haram. Donc là se pose la question sur la capacité militaire du Nigeria réellement à tenir son rôle, qui est celui de protection des territoires. Deuxièmement, et là, l'analyse me paraît juste, c'est de dire, si l'armée aujourd'hui n'arrive pas à assurer la sécurité sur l'ensemble du pays, c'est qu'il y a des complicités. Mais entendons-nous bien, le Nigeria, c'est quand même 36 États qui sont complètement différents les uns des autres. On peut dire qu'aujourd'hui, en gros, un espace qui va de Katsina jusqu'à Damawa, en gros, si on peut dire comme ça.
Le nord-est,
voilà. Tout le nord-nord-est. Oui. La partie désertique vers Kano et la partie est vers le Tchad, c'est une région aujourd'hui infectée ou infestée, si on peut dire. Alors, est-ce que le Nigeria a les capacités militaires pour déloger ? La réponse est non. Est-ce que le Nigeria a la volonté politique et militaire de le faire ? Là, c'est la grande question.
Merci, Mme Kouzoumouami. On va marquer une pause à nouveau dans cette édition du Grand Débat consacré au Nigeria. On revient dans deux minutes et on écoutera Yves Kouamaïso qui est avec nous au téléphone depuis Vienne, évidemment. On écoutera tous nos invités, bien sûr, Akéréo Rimisson et Emmanuel Kouzoumouami. Restez avec nous. À tout de suite.
Jusqu'à 19h, le Grand Débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Le Nigeria de président Goodluck Jonathan. Nous en parlons avec nos invités, Akiré Orimisan, notre débatteur polémiste invité, Emmanuel Kouzoumouami et Yves Kouamaïso qui est avec nous au téléphone. Yves Kouamaïso, je voulais aborder avec vous la question de la corruption qui est devenue une sorte de marque, une marque de fabrique du Nigeria, si je puis dire. Alors, Goodluck Jonathan avait lui aussi promis, comme ses prédécesseurs, d'engager une lutte sans faille contre ce phénomène. Mais quel est son bilan sur cette question? Est-ce que la corruption n'est pas devenue une culture nationale au Nigeria, une sorte comme ça de un phénomène systémique?
Alors, ce n'est pas qu'au Nigeria, le bilan est mauvais, pour répondre à votre question, puisqu'il n'y a pas eu une très grande amélioration. On a fait déplacer Madame la ministre des Finances qui venait de la Banque mondiale et qui avait mis ça comme cheval de bataille, mais les chiffres ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Il y a beaucoup d'institutions, oui, qui vont contrôler, qui fait quoi, oui, etc., mais sur les chiffres, il n'y a pas une véritable amélioration. Mais attention, la notion de corruption, il faut bien le comprendre d'un point de vue des Occidentaux, cette communauté internationale. Elle est comprise de manière tout à fait autre, oui, au niveau des pays africains, et plus particulièrement au Nigeria.
Oui.
Et surtout si elle peut servir à soutenir une politique qui est en train de fonctionner. Mais je voudrais, avant de répondre...
En l'occurrence, c'est pas le cas.
Oui, justement. Alors attendez, moi je voulais rappeler un chiffre qui est très important, il me semble. C'est que vous avez parlé beaucoup de capacité de ce gouvernement depuis qu'il est Jonathan est là, mais constaté que entre, disons en gros 2004 et 2014, donc 10 ans, les revenus de ce gouvernement sont passés de 22% du produit intérieur brut à 10%, moitié. Alors, on peut expliquer beaucoup de choses. La matière première qui a un peu baissé, les crises internationales. Sauf que, moi, je suis d'avis qu'on doit considérer aujourd'hui qu'une partie de cet argent est partie chez Boko Haram. Ce qui fait de Boko Haram une sorte d'allié non objectif ou objectif de ce gouvernement. C'est-à-dire qu'en un état de difficulté avancée de ce pays, on aurait tendance à garder au pouvoir celui qui est au pouvoir. Ce que votre interlocuteur a dit tout à l'heure, sous une autre forme, peut-être politique, moi je vous le dis sous forme économique.
À terrain rémissant, oui.
Oui, et donc c'est un problème de fond, parce que c'est ça qui va expliquer donc les complicités. Et du coup, nous tombons sur ce que vous connaissez bien, que la plupart des gouvernements africains, le Nigeria en particulier, sont des gouvernements civilo-militaires, que les militaires restent cachés, on met un civil devant quand ce n'est pas le militaire qui a mis l'habit civil, et qu'à partir de ce moment, les mannes financières de l'État qui sont utilisées sont aussi ces mêmes qui font la décision. Oui. Quand on a dit tout à l'heure que des militaires ont fui devant Boko Haram, moi je dis non. Les militaires, certains d'entre eux en tout cas, ont reçu des instructions pour ne pas intervenir et donc partir ou fuir comme vous le souhaitez. Oui. Mais ce n'est pas la fuite au sens qu'on ne veut ou ne peut pas. C'est la même chose qui fait qu'ils ne reçoivent pas des équipements. Et ça pose même un problème du rôle des États-Unis qui refusent de donner des armes, parce qu'on se pose la question, est-ce que ce n'est pas finalement un allié objectif des Américains, que ce soit pour l'État islamique, que ce soit pour Boko Haram? Pourquoi? Parce que ça permet de garder le statu quo. Et dans ce statu quo, on négocie des changements des accès aux matières premières de ce pays. Hey. Et on nous a promis qu'on allait nous libérer les filles, les pauvres filles, pour la plupart sont enceintes et une bonne partie se trouve au Cameroun aujourd'hui. On nous a rien dit. On attend que les filles enceintes fassent leurs enfants et que demain matin, on vienne nous les ramener un par un et on ne sait même pas si toutes sont en vie aujourd'hui. Mmh. Donc il y a un vrai problème de complicité. Et là, je reviens maintenant sur votre point de la corruption. Et c'est normal à ce moment-là que la corruption, vue d'un point de vue nigérian, n'est pas du tout celle occidentale. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est fondamentalement mauvais. C'est quelque chose qui va être une ponction sur de l'argent disponible qu'on va injecter dans les espaces où on pourra en tirer profit.
Oui, mais en quoi c'est utile au pays globalement.
Vous parlez du pays. Moi, je vous parle des individus qui sont au pouvoir, qui veulent garder le pouvoir.
Oui.
Alors, bien sûr, ce n'est pas utile au pays. Ça, je suis entièrement d'accord avec
vous. Donc, c'est toxique.
Ben, c'est plus que toxique. C'est même très mauvais. C'est la base même de la mauvaise gouvernance. D'accord. Sauf que ceux qui sont au pouvoir sont aussi ceux qui font les arbitrages et donc qui décident. Donc le problème est de savoir comment arriver à trouver une vérité des urnes qui fait que celui qui arrive au pouvoir soit justement une représentation des populations. Mmh. D'ailleurs, votre interlocuteur l'a dit aussi tout à l'heure, ce monsieur Jonathan, il est venu un peu par hasard finalement à ce pouvoir et quelque part il n'arrive pas à se mettre dans un état de gestion, de management de ce pays.
Et pas justement, c'est la question qui se pose justement sur l'autorité de l'État, hein, qui n'arrive pas à s'affirmer dans ce pays. Et Emmanuel Kouzmami, vous voulez réagir?
Oui, alors quand j'entends que la corruption peut être bonne, c'est un peu comme le cholestérol, le bon et le mauvais. Entendons-nous bien sur quelque chose de fondamental. Quand j'entends parler en Afrique de croissance, 10, 12, 13% de croissance, c'est vraiment des fois des chiffres fantaisistes, excusez-moi. La croissance n'est pas le développement, première chose. Deuxièmement, quand je regarde les performances du Nigeria, alors du temps de Goodluck, maintenant c'est les chiffres de l'UNICEF depuis entre 2008 et 2012, puisqu'on est sous les chiffres. Effectivement, on pourrait dire que la richesse du Nigeria s'est accrue jusqu'à 510 milliards de dollars. Mais n'oublions pas que les 80% de ces 510 milliards, c'est du pétrole. Et le pétrole est brut. Autrement dit, depuis 1956 que le Nigeria exploite le pétrole, il est devenu le cinquième producteur de pétrole et le sixième exportateur mondial. Mais le Niger n'a pas de raffiner le pétrole. Lorsqu'un pays exploite jusqu'à 72 milliards de dollars par an du pétrole, et que malgré 72 milliards de dollars, nous sommes incapables de voir une raffinerie quelque part, et je signale au passage que le Nigeria a le pétrole le plus cher, en tout cas dans la région de l'Afrique occidentale. Donc on peut pas dire,
qu'il n'y a pas de revenus du tout. Il y a des revenus, mais en fait ce sont des revenus relatifs.
C'est ce qu'on appelle l'économie de rente.
D'accord.
C'est l'économie de rente. Alors maintenant, s'agissant des questions de développement, on peut dire ce qu'on veut, qu'il y ait une bonne ou mauvaise gestion de la corruption, mais lorsqu'un pays, je prends le Nigeria, 124 enfants par 1000 meurent à 25 ans. C'est exactement comme au Mali. C'est la performance du Mali. Ça, c'est malheureux. Plus de la moitié, 57% d'enfants sont scolarisés. Chiffre 2012, c'est pas 2015, 2002. Autrement dit, 58% vont à l'école, 42% d'enfants ne vont pas à l'école. Et derrière ça, je vais trouver les adultes qui sont encore aujourd'hui à seulement 60% qui savent lire et écrire. Autrement dit, j'ai 40% de Nigériens adultes qui sont analphabètes. Et ceci, c'est structurant depuis quasiment 20 ans maintenant.
Et à côté de ça, il y a des fortunes colossales au Nigeria.
Ah oui, alors c'est tout l'intérêt. Le Nigeria produit de l'argent. Aujourd'hui, si on prend quelques rapports qui viennent de Transparency International, on considère qu'à peu près 100 milliards de dollars sont investis hors du Nigeria, en Occident notamment, aux États-Unis, en Europe. On considère à peu près 20 à 30 milliards se sont évaporés du Nigeria vers la France, le Luxembourg, la Suisse et la Grande-Bretagne. Et malheureusement, le pays est riche, c'est vrai. Tout à l'heure, je disais, les Nigériens sont riches à l'extérieur, ils sont pauvres à l'intérieur.
Oh, certains sont très riches à l'intérieur aussi.
À l'intérieur, on va trouver des individus riches. Oui. Mais ce qui indique le développement ou la richesse d'un pays, c'est pas le fait que nous avons 2, 3, 4, 10 milliardaires. C'est le fait que nous avons des infrastructures de base qui marchent. L'économie ne marche pas, ça on l'a déjà dit. La sécurité médico-sanitaire est complètement à la ramasse. L'éducation est encore sous terre. L'alphabétisation ne marche pas. Les infrastructures de base, oui, nous avons des autoroutes, mais l'entretien de ces infrastructures de base ne fonctionne pas. Donc, on peut pas dire que le pays s'est donné les moyens de développement. Autrement dit, je dis encore une fois, si Goodluck Jonathan veut se présenter, il a un bilan économique qui est catastrophique, mais encore une fois, c'est une addition de plusieurs échecs de gouvernement précédent.
Commentaire à Kaïroyé, Henri Misson.
Non, sur le plan économique, on ne peut pas dire que le Nigeria est si attardé que ça par rapport à ses voisins de l'Afrique de l'Ouest. Le Nigeria reste quand même le pays d'Afrique de l'Ouest.
Il y a des données, mais il y a la réalité quand même. C'est un pays puissant quand même.
Qui a quand même une valeur économique qui représente plus de la moitié de l'Afrique de l'Ouest tout entière. Donc ça c'est une évidence. Le Nigeria c'est aussi un pays où on a des produits manufacturés qui recouvre la quasi-totalité de l'Afrique de l'Ouest et même au-delà de l'Afrique. C'est-à-dire, on trouve des produits nigériens, la quasi-totalité de tous les pays africains aujourd'hui. Ça, c'est une évidence. Vous allez au Bénin, vous allez au Togo, vous allez en Côte d'Ivoire, vous allez partout, vous trouverez des produits fabriqués au Nigeria. Vous parlez des raffineries tout à l'heure. Les raffineries au Nigeria se sont considérablement développées depuis Obasanjo et même sous Goodluck Jonathan. Pourtant, je ne suis pas favorable à Goodluck Jonathan. Même sous Goodluck Jonathan, on a connu
des développements artisanales.
Les raffineries artisanales qu'on trouve dans le delta du Niger, qui sont des raffineries, qui sont exploités par les habitants du delta du Niger pour aussi profiter de la manne pétrolière, n'a rien à voir avec des raffineries, les vraies raffineries qui sont un peu partout aujourd'hui éparpillées au Niger.
C'est un pays
qui sont en train de se développer.
C'est un des rares pays aussi d'Afrique de l'Ouest où il y a eu une politique industrielle très ancienne maintenant qui a été engagée.
Tout à fait. Donc on ne peut pas non plus avoir de la condescendance sur ce qui a été fait au Nigeria. Et aujourd'hui au Nigeria. Au Nigeria, même si sous Goodluck Jonathan, on a cette influence là qui s'est quelque peu ramollie, reste quand même une influence considérable en Afrique de l'Est.
On va demander à Yves Kouamaïso. S'il vous plaît, Emmanuel.
Yves Kouamaïso.
J'essaie de gérer le chrono comme je peux. Yves Kouamaïso. Alors on a parlé des ombres. Dites-nous quand même. Voilà, parlez-nous des lumières quand même, parce que voilà, il faut relativiser aussi tout ça parce que ça reste un pays fortement contrasté quand même sur le plan économique.
Oui, alors juste avant la lumière, je crois que je vais dire quelque chose qui va peut-être nous mettre tous d'accord.
Vous allez nous assombrir encore le tableau, non ?
Non, pas du tout, mais au moins pour mieux comprendre malgré tout. Tout ce qui a été dit est fondamentalement vrai, mais il y a un problème simple et fondamental qui va permettre aussi de trouver la lumière. C'est-à-dire que c'est une économie, vous l'avez dit tout à l'heure, qui, on voit les industries, ça se vend dans la sous-région, sauf que quand vous regardez les chiffres, ce qu'on appelle nous la capacité en fait à créer, et créer d'abord des matières premières, transformer ces matières premières et créer de l'emploi, le Nigeria est mauvais. Le taux de 2012-2013 du Nigeria en termes de valeur ajoutée manufacturière, c'est-à-dire la transformation industrielle, mais transformation dans les industries, il est le même que le Togo, c'est-à-dire de 8%. Il doit être minimum de 17 à 20% pour pouvoir espérer aller vers ce qu'on appelle nous l'émergence.
C'est un sévère recul alors.
C'est plus que recul, ça a toujours été dans cet état-là. D'ailleurs, il n'est pas le seul. Hein. L'Algérie, par exemple, n'est pas mieux. Donc, j'essaie de vous montrer que ces grands pays qui ont beaucoup de pétrole et qui passent leur temps à exporter sans transformer ou vraiment transformer à la marge ont un très gros problème. Et quand ils essaient de transformer, alors c'est des ventes toute faite d'avance, par exemple avec la Chine, avec d'autres pays, et du coup, encore une fois, la transformation n'a pas lieu.
Alors, mettez...
Attendez, alors sans la transformation, il n'y a pas d'emploi. Pas d'emploi, il n'y a pas de création de richesse pour les populations. Donc, on comprend maintenant la cause fondamentale. Et Jonathan Goodluck, bien que, à la différence de Obasanjo d'ailleurs, n'arrive pas à percevoir du tout cela. Il est persuadé dans sa tête qu'il suffit de vendre rapidement avec les asymétries de marché, c'est-à-dire vous vendez d'un endroit vers un autre, vous faites la différence si le prix ne change pas et vous pouvez vous en sortir. Et donc, ça l'amène à l'échec. Maintenant, sur le côté positif de cette chose-là, je pense que le Nigeria a un très gros problème. Le problème est que la personne qui est là ou l'équipe qui est là n'arrive pas à représenter cette population. N'oublions d'ailleurs pas qu'il s'agit d'une fédération. Et donc, c'est l'ensemble qui doit donner quelque chose. Regardez l'Allemagne, comment ça fonctionne. Madame Merkel, quand elle parle, elle est liée par l'ensemble des Länder. Mmh. On n'arrive pas à trouver vraiment cela au niveau du Niger aujourd'hui. Plutôt, chacun tire un peu de son côté. Et ce qui explique d'ailleurs les complicités avec Boko Haram.
Quelques lumières, mon cher.
Alors, les lumières, oui. Voilà un pays qui aurait dû et qui va devenir tôt ou tard la locomotive. Nous sommes obligés alors de nous projeter 2030-2040. Oui, c'est-à-dire que ce régime qui va venir, quel que soit ce que Jonathan pourra faire, il a les mains liées. On n'a pas le temps de parler de la dette, elle est restée plutôt stable, mais en réalité, elle a perdu en capacité d'influencer d'abord la sous-région et même à l'extérieur. Vous l'avez dit tout à l'heure, on le voit dans les opérations militaires, des choses comme ça, jusqu'à aller demander aux Américains de venir aider pour trouver les filles. On n'a toujours pas trouvé les filles, ni avec Obama. Le fond de l'histoire, c'est qu'il va falloir trouver une nouvelle équipe de gens qui veulent toucher à cette transformation et donc rentrer dans l'industrie. Dangote, le grand milliardaire là-bas, il en fait des certain nombre d'industries, mais en fait, il part toujours dans les rentes de situation. Et quand ils sont tous ces militaires et les fils de ces militaires, avoir pris tout cet argent et continuer dans la rente, voilà un avenir qui va être difficile pour l'ensemble des pays de la sous-région et pour le Niger lui-même. Comment ce changement peut se faire? Alors là, je pense que si le Niger fait l'effort de rentrer tôt ou tard dans les BRICS, les pays émergents, et il a la capacité, je pense que l'influence de ces autres pays pourrait changer fondamentalement. Malheureusement, je ne suis pas convaincu que Jonathan Goodluck ait envie de faire ça, et c'est peut-être pour ça qu'on veut le maintenir au pouvoir, pour justement le sortir, et qu'il n'aille pas rejoindre les grands pays émergents, la Chine, la Russie, l'Afrique du Sud, etc. Donc c'est un grand jeu géopolitique qui est en train de se jouer sur le dos des populations nigérianes qui n'arrivent pas à le percevoir aujourd'hui. Et donc sincèrement, je ne suis pas nigérian, mais si on doit voter pour l'avenir des populations nigérianes, Jonathan Goodluck n'est pas le bon candidat.
Très bien. On va marquer à nouveau une dernière pause dans l'émission. Mais avant cela, on a beaucoup parlé de Goodluck. Jonathan, évidemment, il est au cœur de ces débats. Il doit avoir les oreilles qui sifflent un peu, hein. Voilà, on va quand même l'écouter, évidemment, avec une traduction en français, tout de suite.
Oui, l'armée nigériane est capable d'affronter et de battre Boko Haram. Boko Haram est un groupe terroriste et n'est pas une force conventionnelle. Je ne suis pas en train de dire que nous n'avons pas de problème. Nous avons des problèmes d'attaque terroriste. Donc bien sûr, si les pays voisins viennent aider, nous l'acceptons. Mais laissez-moi vous assurer, nous allons mettre définitivement fin à Boko Haram.
Oui, bon, c'est un engagement à suivre, évidemment. On marque une année pause, retour dans 2 minutes, là, tout de suite.
Jusqu'à 19h, le grand débat avec Francis Laloupeau sur Africa numéro 1.
Le Nigeria du président Goodluck Jonathan, anatomie de ce Nigeria du président Goodluck Jonathan qui sera certainement dans les starting blocks, comme on dit, en février prochain pour la présidentielle. Nous en parlons avec Akere Orimisan, président du club des francophones du Nigeria, membre du bureau de transition de l'association de la diaspora nigérienne en Europe. Nous sommes au téléphone également aussi avec Yves Kouamaïso, économiste, président du think tank Afrocentricity. Et le débatteur polémiste Emmanuel Kouzoumouami. On écoute tout de suite une auditrice, Anne-Marie, qui nous appelle. Anne-Marie, bonsoir.
Bonsoir, Francis.
Nous vous écoutons avec plaisir.
Bonsoir, Emmanuel, et aux autres invités.
Bonsoir.
Enfin, moi, j'appelle pour aborder dans le même sens que les autres invités. Je pense que la candidature de M. Goodluck Jonathan n'a pas de sens parce qu'il a déjà prouvé ce qu'il a à faire. On n'a jamais vu pendant la magistrature d'un président nigérien, voir l'escalade graduelle violente de Boko Haram atteindre cet apogée. Donc il a déjà prouvé ce qu'il a à faire. Bon, dans la vie, il faut savoir partir un jour. Il a déjà montré ses capacités et ses limites. Il lui appartient de partir. Je pense que la situation économique du Nigeria est mal en point parce que je crois savoir qu'il y a un nouveau code d'investissement qui est en passe d'élaboration. Donc, lui est difficile, lui et ses collaborateurs et l'armée, de maintenir la sécurité à l'intérieur même des frontières nigérianes et même d'assurer aussi la défense du territoire nigérian. Je pense qu'il a déjà prouvé ce qu'il a à faire, qu'il sache partir par la grande porte et avec un honneur qui lui est dû.
Très bien.
Je voudrais, c'est cette contribution que je voudrais faire. Je vous remercie.
Merci de votre contribution, ma chère Anne-Marie. À bientôt. Restez avec nous. Voilà, le moment est venu pour passer. Voilà, on va passer aux conclusions. On va faire un tour de table, évidemment. On va commencer avec celui qui est le plus éloigné de nous, pardon, à Vienne, en Autriche. Yves Kouya Maïzo, en quelques mots.
Une projection. Oui, Good Luck Jonathan, il est originaire du Delta. Et vraiment, en 2010, on pensait qu'il allait trouver d'une manière ou d'une autre une solution à ce problème du Delta, la région pétrolifère.
Et il a trouvé.
Ah, écoutez, il a trouvé, on se demande pour qui. Parce que si les populations n'en profitent pas. Ah ouais, c'est ça le fond du problème. Et donc, l'avenir, c'est quoi? L'avenir, est-ce que ce monsieur, s'il est réélu, va faire le jeu pour des entités et des forces politiques qui sont en dehors du Nigeria, ou vraisemblablement celles qui ces forces qui continuent à maîtriser le pays, essentiellement militaire. Ça, c'est la question. Sur le côté positif, sincèrement, s'il peut revenir à lui et penser rejoindre le groupe des BRICS, alors là, il y aura un changement fondamental et positif pour le Nigeria.
Merci beaucoup, Yves Kouya Maïzo, pour cette conclusion brève, concise, efficace. Merci et bonne fin de journée à Vienne. Hein. Merci infiniment.
Beaucoup.
Emmanuel Kouzoumami, c'est à vous. Ensuite, le Sakere Oyemison, qui aura le dernier mot, le mot de la fin.
Simplement quelques remarques rapides. Yaradua a été le président civil et Goodluck, c'est un président civil entre les deux, entre 84 et l'arrivée de Yaradua. Nous avions ou des militaires convertis en civils. Je rappelle au passage qu'Obasanjo était d'abord militaire par un coup d'État, reconverti civil, redevenu président. Donc, il y a eu une sorte de connivence entre l'armée et le pouvoir. Autrement dit, si on n'a pas vraiment de racines militaires ou de coalition de l'armée, c'est difficile de diriger le Nigeria. Ça, c'est la remarque la première. Deuxième remarque, le Nigeria est un pays qui a une mauvaise gestion. 70% du budget fonctionnement du Nigeria, ce soit
pas trop de chiffres.
70% c'est le pétrole. C'est le pétrole. Or, l'ECA, qui est une sorte d'organe de modulation, d'amortissement, lorsque le baril était très élevé, le Parlement votait un budget en fonction du niveau du baril, la différence pouvait être mise de côté en épargne pour éventuellement compenser en cas de difficulté. Au jour d'aujourd'hui, le pays est en difficulté puisqu'il manque 2 milliards de dollars pour le budget 2014-2015. Autrement dit, les 36 patrons des finances des États se sont réunis pour dire
vous trouvez l'argent
ou alors on ne sait pas ce qu'on fait. En conclusion, pour dire que le Nigeria, c'est un pays qui a des ressources qui a dilapidé, premièrement. Le Nigeria, c'est un pays monoproduit qui vit du pétrole alors qu'il y a des mines d'étain,
conclusion,
de plomb, de
zinc,
etc.
S'il vous plaît.
Que le Niger n'a pas mis en valeur. Le Niger n'a pas construit une économie industrielle, contrairement à ce qu'on dit. Il n'a pas construit une économie industrielle alors qu'il a les moyens de le faire. Oui. Il avait les moyens de le faire. Et enfin, le Nigeria, c'est le seul pays au monde qu'on connaît, un grand producteur de pétrole qui a un déficit budgétaire. Donc, c'est une mauvaise gestion de ce pays. Peut-être que le président y est pour quelque chose, mais il faut changer la gouvernance au Nigeria.
Ça, c'est pas une conclusion, c'est un réquisitoire. Hein. Oui. Et Akere Oyemison, c'est à vous.
Moi, je vais plutôt terminer par des notes positives. Je me retrouve pas dans ce tableau apocalyptique là du Nigeria. Moi, en tant que Nigérian, je sais que le Nigeria a énormément d'atouts. Dans les 36 États aujourd'hui, on parle de quelques 3 États qui ont des problèmes dans le nord du Nigeria. Il faut savoir que l'économie continue de vivre dans les autres États du Nigeria. D'ailleurs, au sud, on ne sait même pas ce que c'est que le Boko Haram. Donc, il y a énormément d'atouts dans ce pays. Il faut savoir que les 36 gouverneurs, les gouverneurs du Nigeria sont aujourd'hui en compétition pour mettre en place des atouts, des industries, des écoles, des universités. Il faut savoir que dans les 20 dernières années, le Nigeria est l'un des rares pays en Afrique à avoir construit plus de 20 universités, y compris avec les universités privées et autres. Donc il y a énormément d'atouts aujourd'hui, et même la diaspora nigérienne à l'étranger qui est aujourd'hui en train de s'organiser dans une sorte de brainstorming qui a été mis en place depuis 2001 pour brainstorming économique, industriel et technique pour le retour au Nigeria. Là, je suis très confiant sur l'avenir de ce pays parce que ce pays a énormément de potentialités. Il faut tout simplement avoir des dirigeants qui soient capables de mener les choses à bout.
Mais un avenir sans Goodluck Jonathan, c'est ça?
Un avenir sans Goodluck Jonathan, mais un avenir avec les Nigériens. Les Nigériens sont plutôt confiants. Contrairement à ces brossages que j'ai entendus depuis tout à l'heure, le Nigeria a des atouts. Et ces atouts, aucun pays africain aujourd'hui n'a autant d'atouts que le Nigeria. Et là, nous, Nigériens, nous sommes plutôt confiants à l'avenir de notre pays. Nous savons que nous sommes capables d'arriver parmi les 20 meilleures économies du monde à l'horizon de 2030. Et ça, ça a déjà commencé.
Alors, le chemin est très long.
Comment avez-vous réagi quand le Nigeria a été désigné cette année comme première économie, première puissance économique du continent?
Mais on le savait depuis longtemps qu'on a les potentialités de le devenir. Et quand ça a été annoncé, c'était plutôt une aubaine pour nous, savoir que ça a plutôt donné le courage à tous les Nigériens de s'investir. C'est pour ça que la diaspora nigériane, dont je représente aujourd'hui en France, dans le bureau de transition, est en train de s'organiser pour apporter sa contribution à cette évolution-là. Toute la diaspora nigérienne est aujourd'hui mobilisée, depuis, ça a été mis en place depuis 2001 par Obasanjo, c'est qu'est-ce que vous apportez pour le développement de votre pays. Et ça, c'est une évidence que la confiance y est à la population, c'est tout simplement avoir des dirigeants qui vont dans ce sens-là aujourd'hui, qui nous manquent. Il faut avoir un dirigeant, il faut absolument que dans les élections qui vont venir en 2015, qu'on ait un vrai dirigeant qui sache organiser la capacité de ce pays pour pouvoir la pousser de l'avant et devenir, entrer dans le club des 20 meilleures économies du monde. Et je sais que dans un avenir très proche, le Nigeria est capable de le faire.
Merci beaucoup. Merci infiniment.
En 2030.
Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci à vous, Akere Orimissan, président du club des francophones du Nigeria, membre du bureau de transition de l'association de la diaspora nigérienne en Europe. Ça s'appelle Nidoé France. Merci Emmanuel Kouzoumami. Merci encore à Yves Ekwe Amayezo qui était avec nous au téléphone depuis Vienne, économiste, président du think tank Afrocentricity. Merci à l'équipe du Grand Débat, Stéphanie Hartmann, chargée de production, à Hélène Bizillon, réalisatrice du Grand Débat. Rendez-vous demain pour une nouvelle édition du Grand Débat. Bonne soirée à toutes et à tous à l'écoute d'Africa numéro 1 et prenez grand soin de vous.
Le Grand Débat sur Africa numéro 1. Le Grand Débat.